qu'il aborde beaucoup de thèmes, mais je voudrais moi rester sur vraiment l'idée de l'humour né des quartiers de la vanne, parce que voilà, ça amène l'idée que l'humour peut être une manière de se défendre, mais aussi d'attaquer. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous considérez que l'humour peut être aussi une pratique ou un outil de survie, voire une arme d'autodéfense narrative?
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont dans l'humour, soit parce qu'elles ont vécu du harcèlement, etc., des stigmatisations, et que c'est un moyen d'autodéfense réellement pour pas prendre les punching balls de la société en pleine face tout le temps, quoi, et d'en jouer, d'en rire. Ça me fait penser à ML-782 sur Insta, et c'est un groupe de jeunes de Mantes-la-Jolie qui font des blagues trop... Ils reprennent des stéréotypes des banlieues, etc. Par exemple, on les voit avec en mode « et si vendre des livres était illégal ?» Ils le font en mode parallèle avec comme s'ils vendaient du shit. Et ils font des trucs de dinguerie comme ça. Et ils parlent aussi de sujets féministes et tout. C'est super de voir des hommes, là, qui me semblent des hommes cisracisés, qui s'emparent de sujets aussi qui ne les concernent pas et de manière intelligente et bienveillante, etc.
Nous, on a un compte TikTok dédié à la prévention.
La misogynie, c'est pas juste des insultes ou des blagues déplacées. C'est un comportement qui renforce des stéréotypes négatifs et qui nuit à l'égalité.
Notre objectif, c'est sensibiliser un maximum de jeunes.
Ce qui nous a donné envie de commencer la prévention et de partager ces messages, c'est qu'on est des jeunes de quartier. Ça veut dire pour certains, on est délaissés. Pour certains, on n'est pas éligible à transmettre ce genre de message. C'est pas parce qu'on est des jeunes hommes qu'on peut pas parler de sujets féminins. C'est pas parce qu'il y a des jeunes femmes qui peuvent pas parler de sujets masculins. Tout le monde est libre de partager ce qu'il pense. Et tant que ça sert, on va dire, à cultiver d'autres personnes, pourquoi pas?
Le fait de s'intéresser, c'est de mieux comprendre et de savoir comment agir. Par exemple, juste sur le sujet des ballons.
Protoxyde d'azote est un gaz utilisé dans la cuisine ou en médecine, mais certains jeunes l'utilisent comme un effet euphorisant. Cela peut sembler inoffensif, mais ce n'est pas le cas.
Personnellement, j'ai des amis qui ont été touchés par ça, qui sont en fauteuil roulant, qui ont vraiment des difficultés aujourd'hui, qui vraiment sont au niveau des mains, ils perdent l'usage de leur corps petit à petit. En fait, c'est impactant quand tu le vois de tes yeux. Et vraiment, les gens sont là, ah, c'est pas dangereux. Et le fait de voir des répercussions, on se dit, faut prévenir, faut faire de la prévention.
Nous, les jeunes de quartier, on n'est pas tous les mêmes. On a tous nos valeurs et nos principes. On est tous différents, en fait, c'est ça que je veux dire.
Je m'avance, je dis, et vous,
oui, ça avance.
Après, tout le monde dit, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez?
On va dire, c'est comme une signature de fin.
Voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Et ça me fait penser aussi que des fois, on parlait de l'humour oppressif et tout. En fait, on ne peut pas dire à 100% qu'on ne sera jamais oppressif.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est aussi un outil pour se réapproprier l'espace, etc. Je pense que c'est aussi un outil de lutte. Dans les luttes, je pense que j'ai commencé l'humour aussi parce que j'avais un message à faire passer et que je trouve que c'est un outil intéressant. En fait, je trouve que c'est un petit peu malheureux parce qu'on, du coup, on oblige un peu les gens à être drôles pour pouvoir passer leur message, alors qu'on devrait écouter les gens qui sont énervés, qui sont dans les rues et qui ont des pancartes et qui s'énervent, juste qui pleurent ou voilà. Malheureusement, on les écoute pas et donc c'est un autre moyen de se faire plus écouter quand on a une blague. J'ai l'impression que l'élite nous écoute un peu plus. J'ai l'impression qu'en se réappropriant cet outil, on a plus d'impact dans nos messages.
C'est vrai que quand tu dis ça, ça me donne plus du tout envie de continuer le stand-up. Je me dis, ah là là, on fait plaisir au système dominant, on est un peu trop doux.
Alors, j'ai pas dit que c'est le seul moyen de lutter et qu'il faut continuer à faire d'autres luttes, mais c'est aussi une possibilité de prendre ce temps pour écrire des blagues. Ça peut aider certaines personnes à être moins problématiques pour d'autres personnes.
Oui, carrément. Je pense que l'humour peut aussi faire peur aux dominants et dominantes.
L'antenne se retrouve dans la tourmente après une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur.
Tout commence dimanche 9 novembre en plein direct de l'émission hebdomadaire La Dernière. Et Pierre-Emmanuel Barré, ce dernier s'en est alors pris dans sa chronique hebdomadaire à la police suite à la récente mise en examen pour viol de plusieurs policiers à Marseille et en Île-de-France et aux révélations de Mediapart et Libération sur des violences commises par les policiers en mars 2023 lors des affrontements à Sainte-Soline.
Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout cela en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi.
Une blague qui n'a pas du tout fait rire le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a déposé plainte dès le lendemain de la chronique et sa diffusion sur Internet. Laurent Nunez a déposé sa plainte auprès du parquet de Paris pour dénoncer des propos inqualifiables. Même son de cloche du côté du syndicat de police Unité, qui a dénoncé vendredi 14 novembre dans un communiqué des propos immondes. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de l'humoriste Guillaume Meurice, qui avait été licencié de France Inter, suite à sa chronique du 29 octobre 2023, où il avait comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce.
S'il y a des gens qui ont envie d'agir de manière énervée dans la rue ou en cassant des trucs, je pense aux luttes écolo, il faut les soutenir. S'il y a des gens qui ont envie d'aller parler sur des plateaux télé un peu, je dis mainstream depuis le début, je crois que j'ai dit 10 cette fois, qu'on les encourage. Et s'il y a des gens qui ont envie de prendre un micro et de parler de leur lutte avec humour, je pense qu'il faut les encourager. Toute manière de lutter est légitime, quoi.
Et utile.
Oui.
Tu nous as conseillé Mélo Loret, J'en fais mon arme, qui parle aussi de politique et d'intime.
On a mis des noms à nos corps pour qu'ils passent bien dans le décor. On s'est figé dans ce qui se fait ou pas. On s'est coincé dans des dictats. On nous a dit, garde ça pour toi. Qu'est-ce que je m'en fous, tu fais tes choix. Mais c'est comme ça notre intime et politique. On crie plus fort à chaque critique. Tu crois me faire mal, te t'aimes au sol. Moi je les adore, j'en fais mon âme. Choses changent. Si je devais parler de moi, je parlerais d'un curieux mélange. Homme ou femme, je me suis posé la question. Il ou elle, qu'est-ce qui sonne le mieux près de mon prénom. J'ai fait le choix de ne pas choisir. Je suis un peu rien, je suis un peu tout. Même si je creuse en moi que je vais au bout. Rien dans le système ne vaut le coup. Tu crois me faire mal, te t'aimes au sol. Moi je les adore, j'en fais mon âme. Tu crois me faire mal, te t'aimes au sol. Moi je les adore, j'en fais mon âme. Et voilà qu'ils ont construit deux genres pour faire genre. Voilà ce qu'ils ont construit. Voilà tout ce qu'on a détruit. Voilà qu'ils ont construit deux genres pour faire genre. Voilà ce qu'ils ont construit. Voilà tout ce qu'on a détruit.
De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Fanny et Eos du Go Show Comedy Club.
Mélo, ouais, c'est une chanson que j'aime vraiment bien. Je trouve que ça appelle à résister, même quand on nous dit de la merde, quand on nous critique, etc. Essayer d'en faire une sorte, une force, quoi. Et je trouve aussi que c'est une chanson qui... Il pousse à, enfin de manière gentille pour le coup, mais à se questionner par rapport au genre, etc. Et donne son point de vue intime par rapport à ça. Et j'ai l'impression que dans le milieu queer, en tout cas, on est toujours en train de dire il faut se déconstruire, etc. On se construit pas trop, hein, on se déconstruit, mais on se reconstruit avec quoi ça, je sais pas trop. Et voilà, ça m'appelle en tout cas, et je trouve que ça... ça me touche aussi dans le côté un peu de mon premier sketch d'ailleurs sur le harcèlement, de voilà, il y a des gens qui veulent te dire des mots pour te faire du mal, mais en fait il faut arriver à que ça te touche plus, et si t'arrives encore à en faire une force, c'est génial.
Tu crois me faire mal, te t'aime au sol, moi je les adore, j'en fais mon art.
Devenez des spécialistes un peu de l'humour. Hein.
C'est un grand mot.
On va pas se mentir. Voilà, je me chauffe et je vais me lancer dans la punchline. Et alors vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous n'avez pas peur de prendre la grosse tête avec votre ego show?
On aime bien les jeux de mots ici.
En vrai, moi, j'ai pas peur. Déjà, je me considère pas comme un spécialiste, hein, vraiment pas. J'apprends au quotidien, je vois à chaque fois que je fais des trucs pas ouf, pas... Et c'est reparti pour des mots validistes. Peut-être un peu peur, la scène. C'est vrai que ça fait du bien, le fait d'être applaudi, etc. Ça, je sens qu'effectivement, à l'ego, ça fait un truc à l'ego. Mes chevilles, elles gonflent un peu sûrement, surtout quand on applaudit bien fort. Mais je crois que ça me fait vivre aussi un peu, je sais pas comment dire. Je crois que ça me remonte le moral, et toi ?
Moi, j'ai un médicament contre l'ego. Il faut aller dans des scènes pas gauchos et faire ces mêmes blagues. Et quand il y a un grand silence dans la salle et qu'ils te regardent tous en disant « bah c'est pas drôle », et ben l'ego il redescend très vite. Non mais disons que ça dépend vraiment des scènes où on va, et moi je crois que j'enchaîne beaucoup entre des bides, beaucoup de bides, des moments où c'est sympa et des moments où c'est vraiment cool, donc du coup ça aide de se dire juste « bah faut travailler encore parce que les blagues ne plaisent pas encore à tout le monde ». Et tu disais qu'on est spécialiste, moi ça fait que un an que je fais du stand-up, vraiment je pense que pour être bon faut attendre 10 ans, et là je suis vraiment en construction, j'ai plein de trucs qui vont pas dans mon écriture, et moi j'ai l'impression que je suis en travail continu pour essayer de progresser. Il faudra beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de temps avant d'être fort, mais forte.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même quelque chose de l'ego, à se dire on est capable d'aller sur scène, on est capable de faire rire des gens, oui. Il faut quand même avoir un peu d'ego. Il faut aussi peut-être avoir
de l'inconscience.
Voilà.
Tu parlais de public mainstream, je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de rencontrer un public hostile, par exemple, comment ça se gère en fait quand on est seul quand même sur scène. Est-ce que vous pensez que malgré tout il y a une perception différente, une réception différente entre un public militant et non militant?
Moi j'ai fait pas mal de scènes différentes, dans des publics très militants et des publics dans l'échelle jusqu'à un public vraiment de droite, je pense, et j'ai fait des textes féministes devant des gens qui m'ont regardé sans rigoler dans les yeux pendant 5 minutes. J'ai heureusement pas eu de personnes directement agressives ou qui m'en parlaient après, juste ils étaient pas avec moi, ils ont jamais voulu être avec moi, ils ont pas voulu rire de ça. Heureusement pas eu de personnes qui m'ont pris à partie ou qui ont parlé pendant, en disant que ce que je disais que c'était pas bien. Mais oui, il y a une réception est très très différente, et je pense aussi qu'il faut adapter ces blagues entre un public militant et un public pas militant, avec des vocabulaires qui va changer, mais il faut pas les braquer dès le début, donc j'essaie d'avoir le même message mais de le passer différemment.
Et de mon côté, j'ai connu que le local du Chat Noir, du coup un public militant, je pense que je me sens pas encore capable d'affronter des publics dans d'autres comedy clubs. Pour le coup, je pense que c'est peut-être un manque d'ego ou un manque de confiance en soi de se dire bah vas-y, j'y vais quand même, même si ça marche pas. Je préfère rentrer, être dans une bulle de confort, rester avec le Gaucho Comedy Club, et je verrai plus tard.
On a fini par parler entre nous. J'ai dû parler à des hommes. Je dis pas que j'ai peur de parler à des hommes dans la vie. Et donc c'est la théorie dite de la VCR, si je peux éviter, j'évite quoi. Donc j'ai quand même choisi ma cible, hein. J'ai pris celui qui est le plus sympa, celui qui était le moins sympa. J'ai eu parlé, il était contre Macron, je me suis dit cool. Puis après, il m'a dit « Ah, tu crois que la Terre est ronde, toi ?» Ouais. C'était un peu la théorie de la Convention citoyenne pour le climat. Grandes attentes, beaucoup de déceptions. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai dit « Faut que j'arrête pour la santé mentale, quoi. » Donc je suis allée parler au deuxième gars. J'ai dit « Bon, il avait l'air plus timide, mais je dis, des fois, c'est pas pire. » Puis après, il m'a dit, de toute façon, c'est toujours les mêmes qui posent problème. Mais il ne parlait pas du gouvernement. Je suis restée seule loin de lui. C'était un raciste pratiquant. Voilà. Il avait peur des HLM. Donc avec la CAF aussi, j'adore la CAF, j'adore de la CGT et de l'URSS. Du coup, je pense qu'il avait peur des acronymes de tout à l'heure. Ah oui, URSS et la CAF, il y a deux fois l'ES, donc ça... C'est la théorie de Jean-Marie Le Pen, hein. L'ESS, ça compte pas vraiment.
Temps et un peu plus d'expérience que vous sentirez ça, mais le non-rire n'est pas forcément signe d'hostilité.
Oui, peut-être, et puis des fois, peut-être qu'il ne faut pas chercher à être drôle tout le temps. Ouais. Je sais que la toute première fois, du coup, j'avais fait le sketch sur le suicide en deuxième partie, et il n'était pas encore complètement abouti, il ressemblait plus à une conférence gesticulée, pour le coup, avec beaucoup d'informations, des trucs bien dark, du coup. Les gens n'ont pas rigolé à tout, enfin, quand c'était juste dark, forcément, ils rigolaient pas, mais ça avait un côté un peu instructif, intéressant, etc. Parce que j'ai essayé de changer, à faire un truc un peu plus drôle, mais pour autant, il y aura des passages où j'assume que ce sera pas drôle.
Puis moi, je pense qu'il faut doser aussi, et c'est avec l'expérience, etc. Quand on a un public qui est pas réceptif à notre message, il peut quand même réfléchir sur le message sans rigoler. Les exemples que j'ai, c'était trop des blagues communautaires, entre guillemets, et du coup, ça les a pas fait rire et ça les a braqués. Donc je pense que ça peut être aussi une décision de pas forcément faire rire et de faire passer un message, mais il faut que ça soit une décision. Et là, moi, je l'ai subi et du coup, ça n'a pas fonctionné. Ça a juste été... un rejet.
Ouais, d'autant que il faut l'assumer. Vous êtes vraiment là pour le coup seul en scène. Le stand-up, c'est un art plutôt individualiste. Et vous avez choisi d'en faire quelque chose de plus collectif. Alors, je voulais savoir ce que ça changeait politiquement et pourquoi avoir fait ce choix.
Les petits trucs auxquels on réfléchit un peu, c'est plutôt l'accueil, la fin, comment on parle des choses, comment on essaye de pas créer une hiérarchie entre les gens qu'on accueille, nous qui organisons, être hyper transparent sur l'argent, combien il y a eu dans le chapeau, combien on redistribue, combien on souhaite se payer l'orga, etc. Si tout le monde est OK, si tout le monde a passé une bonne soirée. Quelque chose qui pourrait améliorer, je pense, pas forcément le collectif du Gaucho Comedy Club, mais plutôt la communauté stand-upereuse de Toulouse. C'est plutôt organiser des moments de réflexion ensemble sur c'est quoi l'humour non oppressif, est-ce que ça c'est oppressif ou quoi. En fait, il y a des gens qu'on a invités, mais elles avaient peur de dire des trucs oppressifs, et du coup, au dernier moment, elles avaient un coup de stress en disant « Et cette blague-là, je peux vous la dire, parce que j'ai peur qu'elle soit oppressive. » Et simplement, si on avait ces temps-là, avec un peu plus de temps posé, et pas forcément le soir et tout, ça serait intéressant, je pense, pour améliorer ça. Quoi ? Et ça me fait penser qu'il y a même des gens qui étaient trop contents qu'on les invite. Nous, on n'osait pas parce qu'ils passaient déjà à la télé ou quoi, sur des vidéos YouTube et tout. Et en fait, ils nous disent « Ah non, on veut passer et on va faire des trucs encore plus engagés. On va tenter à faire des choses qui nous correspondent encore mieux. » Et ça, c'est trop chouette, en fait, d'entendre ça, de se dire « On va créer l'espace qui permette aussi à d'autres gens de se dire « Faisons plus, quoi. »
Parce qu'à Toulouse, ouais, y a pas de scène engagée dans laquelle les artistes engagés peuvent vraiment tester des trucs, y aller à fond. Et du coup, c'est un espace qu'ils peuvent s'approprier. Quoi.
Ouais, c'est comme un label de qualité, là. Vous créez un tampon, bim.
Ça. On essaye, ça fait peur.
Casse l'ambiance en soirée. La terreur avec qui on peut même plus rigoler. L'hystérique qui pouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher. Je suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcolé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doute de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez, qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez, crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Ah, oh, ah, oh, oh. Avec plaisir je serai une martyre de la cause. Ah, oh, ah, oh, oh, oh. Avec honneur je serai une martyre de la cause. Ah, oh, 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 oh. Avec fierté je serai une martyre de la cause.
Je suis l'inquisition.
transmission qui censure la culture. La matriarche extrémiste ravageant l'écriture. La délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance. Présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. On peut toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause.